VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Midia Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Mauritanie, l'Union européenne offre 800 millions d'euros et la France 500 millions au G5 Sahel pour les projets de développement axés sur la prévention du terrorisme. L'organisation regroupant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad tient une réunion en ce moment même à Nouakchott pour essayer de collecter 1,9 milliard d'euros aujourd'hui pour des projets de développement, en particulier dans les régions frontalières où les djihadistes tirent parti des carences des États pour s'implanter. Au siège du secrétariat du G5 Sahel dans la capitale mauritanienne, les présidents des pays membres du groupe, parmi les plus pauvres du monde, présentent un total de 40 projets couvrant la période 2019-2021 devant les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et aussi la France, qui est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Au Mali, le colonel Abdoulaye Makalou, secrétaire général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVGR, a démissionné de son poste. Il est accusé d'avoir séquestré et torturé le directeur de publication de Mali Média, Aminou El Hadj Souré, devant les locaux de la CVGR. Le colonel Makalou dément. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Tout est parti d'un article publié par notre confrère sur les malversations au sein du Comité Justice, Vérité et Réconciliation. Mécontent de cet article, le secrétaire général de la Commission a invité le directeur de publication de MaliMedia.com à la personne de Amidou El Hadj Touré dans les locaux de la CVGR. Selon la version de notre confrère, une fois arrivé sur les lieux, il a été séquestré, torturé et menacé de mort par le secrétaire général de la CVGR. Face à cette situation, le colonel Makalou a démissionné de son poste, mais dans sa lettre de démission, il nie les faits et avance une cabale contre sa personne. J'ai l'honneur de vous présenter ma lettre de démission du poste de secrétaire général de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation. En effet, face à une campagne d'intoxication médiatique mensongère, d'atteinte à mon honneur et à celle de ma famille par des individus dont j'ignore les véritables raisons, car n'ayant jamais pris le soin de me rapprocher pour vérifier la véracité des faits rapportés par un pseudo-journaliste. Fin de citation. En entendant l'éclaircissement des choses, l'affaire est entre les mains de la gendarmerie du camp 1, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Togo, les églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes appellent à un report des législatives prévues le 20 décembre et boycottées par les principaux partis d'opposition. Des détails avec Nani Talani.
Dans une déclaration commune, ces églises dénoncent les conditions non consensuelles dans lesquelles est organisé le scrutin et réclament un report de quelques mois qui permettrait d'approfondir le dialogue. Ces organisations dénoncent aussi l'attitude de la classe politique, viscéralement obnubilée par la défense de ses intérêts politiciens, qui amène légitimement à se poser des questions sur son attachement pour le peuple qu'elle aspire à diriger. En outre, elle déplore le fait que les réformes qu'exige l'opposition pour limiter les mandats présidentiels n'ont toujours pas été faites. D'autre part, les églises déplorent que la révision du fichier électoral ait été faite par la CENI sans la participation inclusive de l'ensemble de ses acteurs. Le pouvoir de Lomé s'est engagé à mettre en œuvre les réformes demandées, mais l'opposition dénonce une manipulation. Le projet de texte n'étant pas rétroactif, cela pourrait permettre au président Gnassingbé d'effectuer encore deux mandats.
Tchad, International Crisis Group, le groupe de recherche de solutions des conflits, tire la sonnette d'alarme sur le sort des jeunes des régions sahéliennes du Tchad qui émigrent vers le nord du pays ou la Libye, ce qui a conduit les autorités tchadiennes à intensifier les contrôles dans les régions concernées. Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, estime que la solution du gouvernement est contre-productive.
Figurez-vous qu'un gouvernement responsable, en principe, il devait adopter une certaine politique qui puisse lui permettre de soutenir ces jeunes-là, de les occuper et de développer ces jeunes-là afin de fixer les jeunes sur place, leur faire oublier leur misère, leur infortune, leurs conditions. Or, le gouvernement, non seulement il n'essaye pas d'étudier le problème à fond afin de juguler cette hémorragie à la base, c'est-à-dire en s'attaquant aux vraies causes, parce que l'immigration, c'est les effets. Mais la vraie cause, c'est la misère. C'est la misère, c'est le harcèlement des forces de l'ordre dans ces régions.
Mahamat Nou Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Politique au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté l'hôpital militaire de Rabat où il était arrivé fin novembre. Et il poursuit sa convalescence maintenant dans une résidence privée de la capitale du Maroc. Le chef de l'État gabonais avait reçu lundi la visite du roi du Maroc Mohamed VI, son ami depuis l'enfance. Et des images de cette rencontre avaient été diffusées. Le président Bongo se porte plutôt bien. Le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement, a déclaré mercredi le chef du gouvernement gabonais, Emmanuel Issoze Ngondé, qui n'a pas précisé quand le chef de l'État rentrerait à Libreville. Afrique australe maintenant, en Angola, le journaliste angolais Raphaël Marques, considéré comme la bête noire du régime de Luanda, a été reçu mercredi pour la première fois au palais présidentiel. À cette occasion, il a tenu une conversation sur la corruption avec le chef de l'État, João Lourenço. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
À sa sortie d'audience, qui a duré 45 minutes, le journaliste a salué le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. « Nous avons évidemment parlé de la corruption », a-t-il déclaré. « La corruption n'est pas seulement le fait des ministres », a indiqué Raphaël Marquez, pointant du doigt la petite corruption dans laquelle tout le monde est impliqué. Il dit avoir rappelé au président les souffrances de la population, tout en lui précisant qu'il est nécessaire que les gens aient à manger pour pouvoir célébrer la démocratie. Poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays, Raphaël Marquez faisait partie mardi d'une délégation de représentants de la société civile invités par le président angolais. Mais au dernier moment, un raté semble-t-il protocolaire lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel. C'est donc pour couper court aux critiques que João Lourenço a offert un tête-à-tête de rattrapage aux journalistes d'investigation.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Les Américains ont rendu hommage hier à leur ancien président George Herbert Walker Bush, décédé vendredi dernier au Texas à l'âge de 94 ans. Le président Donald Trump et son épouse Melania, ainsi que quatre de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, accompagnés également de leurs femmes, ainsi qu'un grand nombre de dignitaires étrangers, étaient hier parmi les 3400 personnes qui ont assisté aux obsèques d'État en la cathédrale nationale de Washington. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Au premier rang à la cathédrale, on pouvait voir, outre le couple Trump, les anciens présidents Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Contrairement à la tradition, M. Trump n'a pas pris la parole, conformément, dit-on, aux vœux de George Herbert Walker Bush. Après les discours de l'historien John Misham, de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney et d'Alan Simpson, un ancien sénateur républicain, le fils du défunt, l'ex-président George W. Bush, a prononcé une oraison funèbre teintée d'humour, conclue par des larmes, mettant en exergue les qualités de grand leader qu'incarnait son père. Il nous a montré ce que cela signifie d'être président. Un président qui a servi avec intégrité, dirigé avec courage et agi avec amour dans son cœur pour les citoyens de notre pays. Pour George W. Bush, l'histoire retiendra que George Herbert Walker Bush a été un grand président, un diplomate exceptionnellement talentueux, un commandant en chef aux réalisations formidables et un gentleman qui a été un exemple de dignité et d'honneur à la tête des États-Unis. Parlant encore de son père, M. Bush a dit qu'il va maintenant retrouver sa fille Robin et sa femme Barbara, mortes avant lui. Tu vas nous manquer. Ton grand sens de la décence, ta sincérité, ta grandeur d'âme resteront à jamais avec nous. La chancelière allemande Angela Merkel, le prince Charles du Royaume-Uni, le roi Abdallah de Jordanie et le président polonais Andrzej Duda faisaient également partie de ceux qui ont assisté à la cérémonie à la cathédrale nationale de Washington. Le cercueil du 41e président des États-Unis, couvert du drapeau américain, a été ensuite transporté à la base militaire d'Andrews, près de Washington, pour être ramené à bord de l'avion présidentiel à Houston, au Texas, pour un dernier service aujourd'hui. Il doit être inhumé à la bibliothèque George Herbert Walker Bush, à l'université A&M, aux côtés de sa femme de 73 ans, Barbara, et de leur fille Robin, morte d'une leucémie en 1953 lorsqu'elle n'avait que 3 ans.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.